Vous êtes bien sur Radio Albitzès, voici votre magazine.
Et bonsoir, chers amis sportifs, bienvenue avec le soleil sur l'antenne de Radio Albigès pour votre Max Sport du 6 avril 2017. Nous reviendrons aujourd'hui tout d'abord sur votre agenda sport du week-end avec du foot, du rugby et du motocross. Commençons en foot, le TFC qui a défrayé la chronique judiciaire cette semaine avec l'affaire Edouard Cafaro, du nom de ces deux joueurs licenciés par le président Sadran, suspecté d'avoir tiré sur un citoyen de la Ville Rose au pistolet à air comprimé, tentera malgré tout de fêter ses 80 ans d'existence dignement face au prestigieux Olympique de Marseille. Ce dimanche à 15h devant un parterre d'anciennes gloires du club, les Pitchouns du TEF tenteront en cas de victoire de parachever leur maintien face à un adversaire en quête de place européenne dans une rencontre qui sera loin d'être qu'un match de gala. Amoureux du foot et du TFC, tous au Stadium de Toulouse pour fêter l'anniversaire du club de la capitale d'Occitanie, qui devrait être agrémenté de nombreuses animations sur et en dehors du terrain. En foot aussi, en division 1 honneur, l'US Albi après un très bon résultat à Blagnac, 2-2 la semaine dernière, recevra ce samedi au stade Rigaud à 18h Pradines. Espérons que les hommes du coach Julien puissent devant leur public engranger un bon résultat et finir ce championnat sur les chapeaux de roue. Quant au Marsac SRDT, eux aussi samedi à 18h au stade Désiré Gache, ils recevront Aussonne avec la volonté d'arracher des gros points dans son objectif maintien. Gageons que le coach marsacois, Steph Benedet, sache trouver les mots pour galvaniser ses hommes. Maintenant, passons à notre page rugby où, comme chaque semaine, l'actu est riche et fort diverse. Tout d'abord, le Castres Olympique qui va essayer de se remettre la tête à l'endroit, dirons-nous, en recevant le Loup ce samedi à 18h45 à Pierre-Antoine. Les hommes de Christophe Furios sont obligés d'aller décrocher la victoire s'ils ne veulent pas se voir envoler leurs espoirs d'accéder au play-off, objectif avoué de la saison. Quant au match reporté face au Stade français, les Castrés se retrouvent otages d'un bras de fer administrativo judiciaire entre Bernard Laporte, président de la Fédération française de rugby, et Paul Gauze, président de la Ligue, faisant monter au créneau le président du CO, Pierre-Yves Revol, jugeant que son équipe n'était plus sur un pied d'équité par rapport aux autres clubs jouant le haut du tableau. Dans tous les cas, le match reporté a été fixé au 19 avril par la Ligue, sous réserve de nouveaux rebondissements. Quoi qu'il en soit, face aux Lyonnais ce samedi, les Castrés n'auront qu'un impératif, la victoire. Maintenant, passons à notre série Plus belle l'Ovalie, avec les rocambolesques aventures du Sporting Club albigeois. Tout d'abord, parlons du sportif, où les joueurs et le staff abordent une de leurs quatre finales, dirons-nous, pour arracher leur maintien ce vendredi soir à 20h face à Aurillac. Lors de leur dépassement dans la préfecture du Cantal, les joueurs auront une partie de l'avenir du club et des salariés entre leurs mains. Et vont devoir se sortir les tripes pour aller chercher l'exploit chez un candidat au haut du tableau. Mais le staff et les joueurs, malgré une atmosphère les entourant fort compliquée, essaient de se concentrer sur l'essentiel, le jeu, le rugby. Espérons que les joueurs du CA, amenés par leur capitaine Fred Kersey, exemple de volonté sur le terrain, comme lors de la défaite vendredi où il transperça rageusement les lignes montabanaises à plusieurs reprises, fassent vibrer de nouveau le cœur de leurs fidèles et indéfectibles supporters et nous permettent de rêver encore à un Sporting Club albigeois en Pro D2. Sur le terrain des recrues, Arnaud Mella, le futur manager, n'a pas encore signé son pré-contrat, d'après nos infos, pour des raisons contractuelles avec son employeur actuel, Brive, devrait incessamment sous peu faire une annonce officielle et donc signer le dit contrat. En attendant, Arnaud Mella arrivera avec un de ses coéquipiers en ses valises, à la personne de Albert Patrick Toetou, pilier droit international samoan de 33 ans, première recrue et qui a signé pour 3 saisons. Ce recrutement serait un prémisse d'un recrutement que les dirigeants veulent ambitieux en cas de maintien en Pro D2. Mais la vie de ce club ne se passe pas que sur le terrain. Et c'est pour cela que ce mardi, nous avons pu interroger M. Philippe Folliot, député de la première circonscription du Tarn et conseiller départemental, sur son ressenti en tant que supporter du Sporting et élu tarnais sur les événements récents. Nous écoutons cet entretien réalisé ce mardi après-midi téléphoniquement.
Monsieur Folliot, monsieur le député du Tarn, bonsoir. Merci d'être à notre antenne et merci de venir à notre micro réagir sur la situation alarmante du Sporting Club albigeois, dont vous êtes un supporter assidu. J'irai droit au but, monsieur Folliot, quel est votre sentiment face à ce que certains supporters appellent un immense gâchis ou une catastrophe industrielle? La crise est latente, n'est-ce pas désolant que le club en soit arrivé là?
Il est clair que c'est une situation qui est une situation très ambivalente. Parce que le Sporting Club albigeois a été ces dernières années dans une situation financière très difficile et dans une situation sportive qui n'a pas toujours été facile, mais on l'a vu au travers de la qualification il y a 2 ans, était quand même quelque chose de tout à fait positif et d'intéressant. Et là, nous sommes un peu à front renversé, si je puis m'exprimer ainsi, c'est-à-dire avec une situation financière qui est saine. Et ça, je crois qu'on doit rendre hommage aux dirigeants et à l'équipe actuelle d'avoir su redresser une situation qui était compliquée, parce que le Sporting est passé plusieurs fois pas loin de la relégation financière et administrative. Et avec une situation sportive qui, elle, est très compliquée. Donc, voilà, on le regrette très profondément parce que il n'y a aucun événement, d'Albi dans le nord du Tarn qui est capable de rassembler plusieurs milliers de personnes une fois tous les 15 jours, comme le rugby, comme le Sporting.
C'est un vecteur touristique, le Sporting, maintenant, quasiment.
Oui, et puis c'est surtout aussi un vecteur populaire. C'est comme l'est le casque olympique dans le sud du département. Donc ça permet à beaucoup de se retrouver. Moi qui vais effectivement très régulièrement au stade et le plus souvent en tribune nord, je regrette bien sûr cette situation. Bon, après, chacun a sa place. Moi, je ne suis pas là pour distribuer des bons ou des mauvais points par rapport aux uns et aux autres. On ne peut que regretter cette situation. En tout état de cause, il y a un point qui me semble important. C'est que tant que, comptablement, il y a une chance de se sauver, ben, il faut se mobiliser à fond pour la saisir jusqu'au bout.
En parlant du sportif, excusez-moi de vous couper, M. Folliot, le club avait entamé un redressement sous la houlette de Vincent Clément durant 4 matchs. N'est-ce pas malheureux qu'il ait dû jeter l'éponge du fait de désaccords profonds avec la direction sur leur gestion et leur communication? Et n'est-ce pas dommageable pour la dynamique qui s'était un peu créée, on va dire, sous ces 4 matchs?
Peut-être, et même certainement, en tout état de cause. Moi, je ne suis pas assez au cœur des enjeux en la matière pour pouvoir dire réellement ce qu'il a mis. Ce qui me paraît important, c'est qu'in fine, ce sont de toute manière toujours les joueurs qui sont sur le terrain. Donc c'est eux qui auront en partie la clé du succès ou pas. Mais tant que on a déjà vu des situations qui étaient des situations, tout aussi difficiles, ben voilà, il reste 4 matchs, il y a 20 points potentiellement à prendre. Voilà, on sait qu'il faut en prendre une douzaine pour s'en sortir. Et donc voilà, maintenant il faut y aller, et puis il faut aller jusqu'au bout du bout. C'est comme ça que ça marche. Tant que il y a un espoir, eh ben, je veux dire, il faut se battre. Et puis ensuite, ensuite on verra quoi pour la saison prochaine. Mais voilà, d'autant plus que nul ne peut exclure qu'il y ait quelques évolutions au niveau du top 14, parce que tout un chacun a bien compris qu'il y avait un club du top 14 qui était en vente, que l'actionnaire majoritaire donc voulait s'en séparer, que dans ce cadre-là, s'il ne trouvait pas repreneur, eh bien, il pourrait y avoir là aussi un dépôt de bilan. Donc ce qui pourrait entraîner le fait qu'il y ait qu'une au lieu de 2 descentes de Pro D2 donc vers la Fédérale 1. Donc voilà, ne serait-ce que par rapport à tous ces éléments, alors c'est vrai que c'est de l'expérience.
C'est un peu hypothétique.
Mais il faut aller jusqu'au bout du bout. Et puis surtout, c'est un grand club. Il y a derrière cela, et moi je crois que c'est l'élément le plus important, parce qu'il y a la vitrine professionnelle. Mais derrière la vitrine professionnelle, c'est tous ces admirables bénévoles, éducateurs, je dirais qui encadrent les équipes jeunes. Il y a eu une très belle école de rugby Albi. Et ça mérite d'être dit, d'être souligné, et en tout état de cause, il faut se battre pour la pérennité de ce club. Bien sûr, la vitrine professionnelle, mais ne pas oublier le reste, parce que c'est quelque chose d'éminemment important et essentiel.
Une question qui va toucher un peu plus l'élu, on va dire, que le supporter. Sur les réseaux sociaux, des rumeurs les plus folles courent sur un déficit de 650 000 euros. On ne sait pas ce qui est vrai ou faux. On vient de voir ce mardi que Auch, pour une somme similaire, dépose le bilan. Vous qui êtes conseiller départemental, ne craignez-vous pas que les collectivités ne doivent remettre la main à la poche pour sauver le club si ces allégations étaient vraies? On est bien sûr dans l'hypothétique.
Hein. Moi, je n'ai aucune information permettant de confirmer ou d'infirmer ces rumeurs, ces bruits. Voilà, alors ensuite, par rapport à la situation des collectivités locales, force est de constater que la ville d'Albi aide beaucoup le Sporting. Et que comparativement à le nombre de villes de même importance, l'Albi est plutôt dans la moyenne haute. Par contre, force est de constater aussi que le département du Tarn aide les clubs, mais de manière beaucoup plus modeste. Bon, c'est un choix qui a été fait, que j'ai regretté en son temps, mais en tout état de cause, on fait aussi que maintenant le département, comme toutes les collectivités locales, se trouve pris dans des contraintes financières qui font que c'est pas forcément facile pour eux de pouvoir répondre favorablement à toutes les sollicitations. Mais voilà, moi j'ai toujours dit, je suis pas sûr que les 2 millions d'euros que le département met tous les ans dans le gouffre de pertes découvertes soient quelque chose de judicieux. Et qu'en termes d'image du département du Tarn, comme on l'a vu au travers du festival Rugbymage, du reste, il y a quelques jours, il y a quand même un lien très étroit et très fort entre ce département et ce sport, ces sports, parce que je mets le 13 aussi, qui fait partie de notre culture départementale. Eh bien, moi,
il y a même un club de rugby football aussi dans le Tarn.
Tout à fait. J'aurais joué peut-être plus sur cet élément d'identification, mais c'est pas le député de la première circonscription du Tarn qui est le seul député de France à avoir un club de top 14 et de Pro D2 dans sa circonscription qui vous dira le contraire. Donc, en fonction de ces éléments, il faut que les collectivités continuent à accompagner comme elles le font les clubs, mais qu'elles puissent le faire donc par le biais de la vitrine qu'est le sport professionnel, qui a des impacts économiques aussi local, parce que ce sont des emplois, c'est de l'activité, c'est du chiffre d'affaires. C'est, vous l'avez dit tout à l'heure, en termes de tourisme, des personnes qui viennent passer un week-end à Albi pour suivre leur équipe et donc qui laissent de l'argent dans l'économie locale. Donc c'est
des externalités positives qui sont créées.
Voilà, tout cet ensemble qu'il est important de préserver et de sauvegarder. Voilà, moi je suis d'un naturel très très optimiste et voilà, j'espère que il y aura cette réponse sportive de la part des joueurs, cette mobilisation de tout un chacun, parce que quand on regarde cette saison, même sportivement elle n'a pas été catastrophique, combien de matchs le Sporting a perdu sur trois fois rien,
vendredi dernier, quoi.
Un essai qui n'a pas été marqué au bon moment, une faute de jeu à tel autre moment, etc., etc. Voilà, ce qui veut dire que cette équipe n'est pas, si vous me permettez l'expression, cette équipe n'est pas à la ramasse, loin s'en
tout
faut.
Fait.
Bon, c'est simplement, voilà, il a manqué toute une série de petits trucs qui ont fait que, voilà, on a perdu tout un tas de matchs à domicile, même certains à l'extérieur, deux, trois fois rien, et qui fait qu'aujourd'hui on est dans cette situation. Donc,
une petite question aussi pour le supporter que vous êtes, excusez-moi de vous couper encore. Les supporters sont en colère, ils ont largement fait valoir leur ras-le-bol tout au long des dernières semaines et durant le dernier match du Sporting. Comprenez-vous leur exaspération et soutenez-vous leur démarche?
Moi, je comprends. Je veux dire, quand on aime son club, on aime le voir gagner. Quand on aime sa ville, on aime la voir gagner. Je veux dire, c'est légitime par rapport à cela. Après, moi, je pense qu'il faut aussi raison garder. Et, je veux dire, c'est dans des moments difficiles comme cela où il est important peut-être de serrer les coudes. Donc, pour essayer de voir et de trouver collectivement un certain nombre de solutions avec cet élément d'équilibre. In fine, de toute manière, c'est l'association qui aura son mot à dire, parce que c'est elle qui dispose du numéro d'agrément qui permet de pouvoir inscrire un club professionnel dans un championnat. Je crois que c'est un point essentiel. Les fondamentaux du Sporting me paraissent solides. Mmh. Voilà. Il y a des éléments qui sont des éléments aussi qu'on doit mettre en avant. Le club affaires du Sporting Club Albigeois est quand même une belle réussite. Mais c'est une très belle réussite quand on le compare avec d'autres clubs affaires.
Monsieur Vérac nous disait que quand il est arrivé, ils étaient 100, ils sont maintenant 350 partenaires. Donc il y a un grand
développement. Tout à fait. Moi, j'ai l'opportunité de pouvoir y aller de temps à autre, peut-être pas aussi souvent que ce que je le souhaiterais, mais c'est remarquablement bien organisé. Il y a du monde, des entreprises, bien sûr de l'Albigeois, mais au-delà de cela, de la montagne, des entreprises du sud du Tarn, des entreprises de la région toulousaine qui se retrouvent et qui aiment se retrouver dans ce club à faire du Sporting Club Albigeois. Donc tout ceci est quand même aussi à prendre en compte. S'il y a bien sûr quelques éléments négatifs, s'il y a eu ces ratés sportifs, ben, je crois qu'il y a aussi quand même des éléments de structure forts autour
tout
de
n'est pas jeté, on en convient. Vendredi, pendant le match, le président Castanet a subi toutes sortes de pressions et de récriminations. Après le match, on l'a vu, moi-même, je l'ai vu, en zone mixte, j'ai vu passer un homme défait qui avait l'air au bout du rouleau, sincèrement atteint. Ne serait-il pas plus raisonnable qu'il s'en aille ou que, comme on dit dans le jargon, qu'il soit débranché?
Écoutez, c'est à lui à décider, et c'est au comité des directeurs à décider, c'est en aucun cas un élu.
Non, mais vous donnez votre avis.
Quoi que ce soit. Moi, je dis simplement qu'à un moment donné, président Jean-Jacques Castanet a redressé financièrement ce club. Faut savoir qu'à un moment donné, le Sporting Club Albigeois était au bord du dépôt de bilan et de la rétrogradation en Fédéral 3. C'est ce qui pendait au nez. Et lui-même, avec l'équipe dirigeante actuelle et avec ceux qui ont soutenu, eh bien, ils ont réussi à redresser financièrement cette situation. Et comme on l'a dit tout à l'heure, il y a quelques éléments fondamentaux qui me paraissent bons pour la pérennité et le devenir de ce club.
Il y a
le soutien de la ville d'Albi, qui a été toujours un soutien constant. La ville d'Albi verse au Sporting 4 fois plus que ce que la ville de Castres verse au Castres Olympique.
Il y a un soutien vraiment assez conséquent.
De réalité par rapport à l'implication de la ville pour soutenir ce club. Donc voilà. Après, les éléments, je crois, chacun a sa place. Moi, je suis simple supporter de base du Sporting depuis de très nombreuses années. J'adore ce club comme j'adore ce sport. Et donc, je suis...
On le sent bien, tribune, quand vous voyez.
De cette situation. Voilà. Mais après, je vais m'interdire en tant qu'élu d'une manière ou d'une autre de rentrer dans ces considérations-là parce que je faillirais au devoir, j'allais dire, de réserve et de neutralité qui doit être celui d'un élu par rapport à ces questions-là.
Pour finir, une dernière petite question, une question très simple aux supporters du Sporting que vous êtes. Comment envisagez-vous l'avenir et la fin de saison du SCA et avez-vous un petit message d'encouragement à passer au staff et aux joueurs?
Écoutez, moi, ce message, je l'avais dans le sport, c'est comme en politique. Tant que on n'est pas arrivé au soir de l'élection ou quand on n'est pas arrivé à la dernière minute du dernier match, eh bien, il faut se battre. Il faut se battre à fond, de manière pleine et entière. Il y a des situations qui sont parfois des situations difficiles, voire désespérées, qu'on peut relever, mais on peut le relever si on le veut, et si on est unis, si on est solidaires par rapport à cet objectif. Et ça, c'est un point important. Et puis, en tout état de cause, quel que soit le devenir sportif du Sporting Club Albigeois, moi, l'année prochaine, je serai en tribune. Je serai en tribune pour soutenir le club, comme je
parle
de la plupart des supporters. Parce que, et pour les supporters, je leur dis aussi, c'est dans ces moments difficiles où il faut faire preuve d'un maximum de cohésion, et les uns et les autres, pour faire de telle sorte que, ben, je veux dire, cette chance, il y a peut-être une chance sur 10, il faut aller jusqu'au bout, il faut la tenter, pour après ne rien avoir à regretter. Voilà. Ce qui est le plus terrible, c'est quand vous êtes dans une posture au niveau de laquelle vous regardez après dans la glace et vous dites, j'ai pas fait le maximum pour essayer de m'en sortir. Eh bien, je suis sûr que joueurs, dirigeants, supporters, encadrement, j'allais dire toute la grande famille du Sporting va se retrouver pour essayer de prendre à bras le corps cette dernière chance et de jouer à fond, être fier, parce que ce qui a toujours fait j'allais dire l'ADN de ce club, c'est une forme de fierté. Et bien cette fierté, il faut maintenant plus que jamais la mettre en avant, la conjuguer pour faire de telle sorte que nous ayons une très très bonne satisfaction, une fin de saison qui restera mémorable et qui nous permettra l'année prochaine de retrouver un Sporting avec de la volonté en Pro D2 et tourner résolument vers l'avenir.
On l'entend et c'est tout le mal qu'on souhaite au Sporting. Donc, Monsieur Folliot, un grand merci d'être venu à notre micro pour nous faire part de vos sentiments, avec quand même un grand optimisme dans vos propos, on l'entend, et en espérant vous réentendre sous des cieux plus radieux pour le SCA, par exemple, la saison prochaine ou en 2021.
Merci, et je l'espère.
Merci
et
à vous d'être venu à notre micro. Au revoir, Monsieur Folliot.
Au revoir.
Nous remercions M. Folliot d'avoir eu la gentillesse de trouver un créneau dans son emploi du temps fort chargé pour venir répondre à nos questions sur ce sujet actuellement fort épineux. Souhaitant avoir l'avis des élus et des collectivités soutenant le club, c'est tout naturellement que nous avons aussi sollicité la mairie d'Albi, qui, comme le soulignait notre invité du jour, est un gros pourvoyeur en subvention et en aide en tout genre pour le Sporting. Mais malheureusement, la mairie d'Albi n'a pas répondu favorablement à nos sollicitations, ne souhaitant actuellement ne pas communiquer sur le sujet. Il est vrai que la mairie, un des gros financeurs du SCA, comme on le dit après, a eu aussi à intervenir en début de saison sur l'imbroglio Pemja, sauvant au passage le soldat Baka et arbitrant une scission du conseil d'administration, leur laissant un goût amer. En effet, certains commencent maintenant à reprocher à la mairie cette intervention qui est des fois perçue comme un des ferments de la crise actuelle. Et donc pour cela, et sûrement pour d'autres raisons qui nous échappent, c'est le silence radio dans les services de Madame le maire et son adjoint au sport, Michel Franck. De plus, des bruits de couloirs dans les milieux autorisés circulent. Le président Castanet, débordé par les événements qui secouent le club, submergé par un torrent de rancœur et de haine venant des supporters, aurait demandé à la mairie de lui adjoindre un de ses élus, Louis Barret, ancien dirigeant du Sporting et adjoint aux finances de la ville. Le président Castanet pense sûrement se soulager de bien être à cas et faire un contre-feu envers les supporters en s'adjoignant les services de l'ancien homme-lige de Jomir et rappelant par là les fastes d'antan. Mais la mairie ne serait pas très ouverte, d'après nos informations, à cette hypothèse, pensant sûrement y perdre beaucoup plus que ce qu'elle ne pourrait en retirer dans ce contexte crépusculaire. En outre, un autre élément inquiète a eu lieu, il manquerait à l'association du club de sources sûres et fiables 150 000 euros qui pourraient être compensés par la dotation de 200 000 euros de la fédération en cas de relégation. Vous verrez que bientôt, certains nous y trouveront des avantages si d'aventure les jaunes et noirs descendaient. Mais de plus, nos sources parleraient aussi de 500 000 euros manquant à la SASP. Élément que nous essayons de vérifier malgré l'absence de réponse de la direction quand nous l'avons sollicité. Certains éléments du club qui tablent sur les soi-disant problèmes financiers de Montauban ou Dax, ou encore l'hypothétique désintégration du Stade français, devraient faire attention que ce péril ne soit pas le nôtre. Car avec des sommes avoisinantes, nos voisins de Hoche viennent de déposer le bilan. Cette succession de faits faisait dire à une personne gravitant dans les autres sphères du SCA, depuis des lustres, et que nous avons rencontré cette semaine, que les investisseurs, historiques du Sporting, entrés au club il y a une vingtaine d'années au capital, sur la base de ce que les initiés appellent le pacte Montlore, seraient usés, harassés, voire lassés, pour ceux qui n'ont pas encore quitté le navire, et se verraient bien profiter dorénavant de la quiétude des sables de l'île Maurice, devenu lieu de villégiature privilégiée de l'establishment politico-économique albigeois, face aux tracas et fracas inhérents d'un club devenu des plus instables. Et là, de nombreuses questions se posent. Qui pour reprendre le flambeau, sachant que le corps économique albigeois est loin d'être extensible? Quel avenir pour ce club? Laissons pour le moment la balle aux joueurs, qui essaient tant bien que mal de tenir leur rôle et surtout de mouiller le maillot jaune et noir. Pour conclure sur le sujet, ce club qui nous aimons tous et dont l'état actuel brise le cœur de nombre d'Albigeois peut actuellement se résumer par une maxime issue d'un des films cultes de ma génération, La haine de Mathieu Kassovitz. Jusqu'ici, tout va bien. L'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Enfin, pour changer de sujet et passer dans un registre, on va dire, plus festif, hier mercredi, nous sommes rendus au circuit de Puech-Rampan pour rencontrer les organisateurs de l'incontournable motocross de Castelnau de Lévis qui se déroule ce week-end. On les écoute. Alain Bosseboeuf, bonjour. Vous êtes le président du motocross de Castelnau de Lévis. Ce week-end, un événement assez important que vous organisez, le championnat de France MX de motocross. Pouvez-vous nous en parler un petit peu?
Oui, bonjour et merci à Radio Albigès de nous laisser nous exprimer par rapport à notre activité. Bon, notre activité, le motocross de Castelnau de Lévis, existe depuis 49 ans, donc l'an prochain ça sera le 50e anniversaire, et le mois d'avril représente toujours le grand motocross de l'année puisqu'il s'en déroule deux dans l'année. Cette année nous avons opté pour le championnat de France élite compte tenu de l'intérêt porté par la télé, notamment Motors TV, par la fédération française et la médiatisation du motocross, puisque maintenant on en voit régulièrement sur l'équipe 21 et tout, et donc nous avons opté sur le championnat de France élite avec 190 pilotes qui vont être présents tout au long du week-end.
Donc des ténors mondiaux.
Et des ténors mondiaux, oui, puisque en MX1, c'est-à-dire MX1, c'est les 450. Les leaders sont Xavier Bogue, l'Alsacien, sont Valentin Théier de Vendée, sont Nicolas Aubin, le Breton. Mais à Castelnau, nous avons décidé d'inviter le team officiel Yamaha Grand Prix pour le championnat du monde. Et pour la première fois de sa carrière, Benoît Paturel, qui est actuellement troisième du championnat du monde de 250 et champion du monde par équipe nationale en 2016, viendra participer à l'épreuve de Castelnau, donc en MX1, en 450. Et il sera accompagné par le champion d'Espagne MX1 qui s'appelle Ander Valentin. Donc ça va faire de belles courses entre les pilotes qui courent pour le titre et les pilotes qui sont là pour jouer les troubles fêtes. En MX2, c'est-à-dire en 250 cm3, il y aura aussi des invités puisque il y aura le Belge Van Donenck, qui est à l'heure actuelle le 5e championnat du monde de 250, le Suédois Ostlund, qui est champion de son pays et qui n'a que 18 ans, et qui vont s'opposer aux meilleurs du championnat de France en ce début de saison, qui sont Nicolas Aubin, le Breton, qui sont l'Américain Marshall Veltin, qui fait tout le championnat du monde de France cette année, qui sont Richier, etc., etc. Ça va faire un très gros plateau. Ça va commencer dès le samedi avec des courses 80 et 65 au niveau régional, ainsi qu'avec les qualifs du championnat de France junior, qui sera levé le rideau le dimanche, mais les qualifications seront le samedi, et où on pourra admirer l'albigeois Calvin Fonvieille, qui est à l'heure actuelle troisième de ce championnat.
Sur le local de l'étape.
Le local de l'étape, mais c'est souvent difficile d'être le local de l'étape.
Nul n'est prophète à son pays, comme on dit.
Oui, voilà. D'autant que même au championnat de France junior, il y a un pilote hollandais qui sera à Castelnau qui a gagné les deux manches de la semaine dernière en Bretagne.
En plus, on a pu voir avec la météo annonce du beau temps, donc ça risque d'être une manifestation assez intéressante à venir suivre sur ce magnifique circuit de pêche rampant. On a vu aussi qu'il y a une grosse organisation. Combien vous êtes de bénévoles ? Pouvez-vous nous dire un petit mot sur l'organisation et le nombre de bénévoles que vous êtes ?
Bon, le week-end de la manifestation, nous avons besoin de 200 bénévoles, répartis sur tous les secteurs de l'organisation. Et il est évident, comme vous parlez à juste titre, il va faire un temps caniculaire ce week-end, ou caniculaire, ou en tout cas estival. Et donc, il nous faut déjà une cinquantaine de personnes pour les buvettes, parce que les buvettes sont un élément important. Et il faut savoir que en année normale, entre les gens qui achètent le billet pour venir, les billets partenaires, nous arrivons à réunir sur le circuit de Castelnau tous les ans au moins 5000 personnes.
C'est une très belle réussite, on vous souhaite beaucoup de plaisir et une belle réussite pour ce magnifique Grand Prix de MX Champion de France à Castelnau. Merci Alain Mosseleuf.
Merci beaucoup et donc bon vent à tous les amateurs de Radio Albigès, et vous êtes invités à venir voir cette magnifique compétition.
On n'y manquera pas, au revoir. Nous remercions le président du motocross de Castelnau pour cette sympathique interview, en espérant que vous irez profiter des premiers rayons de soleil printanier lors de cette manifestation où spectacle et convivialité seront de mise. Ce Maxport touche à sa fin, merci à Will pour la technique. Sachez que cette émission est réécoutable en podcast sur internet et sur nos ondes à 19h30, en espérant que le SCA nous ramène une bonne nouvelle du Cantal ce vendredi, et en espérant aussi vous croiser ce week-end sur le circuit de Castelnau. Je vous dis à Desias et à lundi.